BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Bertrand Martineau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, économiste, grand spécialiste de la formation, de l'emploi. Vous êtes ancien conseiller social à l'Élysée. Aujourd'hui, vous êtes à l'Institut Montaigne. Je recevais ce matin la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle nous a donné cette information qui montre quand même l'ampleur de la crise. Plus de 10 millions de Français, 10 millions 200 000, sont en chômage partiel. Est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre malgré tout? Et encore, ce n'est un chiffre que provisoire.
Bonjour. Alors non, je ne suis pas extrêmement surpris pour deux raisons. D'abord parce que le dispositif est extrêmement favorable, extrêmement généreux, hein, à la fois pour les salariés et pour les employeurs. Il faut rappeler qu'il y a aussi une exonération totale de cotisations sociales patronales et salariales qui est associée à ce dispositif. Donc, il est très généreux, il est très facile à utiliser. Et puis par ailleurs, l'ampleur des baisses de chiffre d'affaires dont vous avez rappelé dans certains secteurs est telle que, bien entendu, il est tout à fait normal que le dispositif marche très bien. Je dois préciser que ça ne veut pas dire 10,2 millions, qu'il y a effectivement 10,2 millions de salariés qui sont toute la semaine en chômage partiel. Hein. 10,2 millions, c'est la somme de toutes les demandes qui ont été faites, mais ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, il y a 10,2 millions qui ne travaillent absolument pas, évidemment.
Bertrand Martineau, la grande question, les questions, on voit bien, c'est du reste aujourd'hui que espèce de feuille de route des différents ministres discutent à Matignon pour un plan de déconfinement. La question quand même, c'est comment on peut débrancher un tel système? Parce que c'est pour les salariés, c'est sûr que c'est plus confortable entre guillemets que de courir un risque d'aller à son entreprise où il y a des risques de contamination. Et en même temps, il faut bien sortir de cette situation.
Alors, c'est exactement le sujet. En fait, c'est plus facile de mettre en place, si on suppose qu'on n'a plus aucune contrainte des finances publiques, qu'on est dans le coûte que coûte, hein, évidemment. Donc, admettons, on n'a plus aucune contrainte, c'est beaucoup plus facile de créer le dispositif que d'en sortir. Il est calibré aujourd'hui de telle manière que il y a, au moment du déconfinement progressif, il va y avoir de fortes incitations à ne pas en sortir. Enfin, donc, si vous le laissez absolument en l'état, vous allez avoir à la fois, vous allez appuyer sur l'accélérateur, c'est-à-dire encourager les gens à retourner au travail, et en même temps sur le frein, parce que vous aurez une forte incitation pour les entreprises qui auront s'enfermer, mais qui auront quand même des pertes de chiffre d'affaires de 20%, 30%, à mettre leurs salariés en activité partielle. Donc il va falloir progressivement, sans doute, que le calibrage soit un petit peu moins favorable pour accompagner le retour au travail. Je précise qu'évidemment, il va falloir distinguer entre les secteurs qui ont l'obligation de fermer, c'est-à-dire par exemple pour les cafés-restaurants, où là, nécessairement, il faudra continuer, mais dans la grande majorité des secteurs de l'économie, il va falloir sans doute progressivement diminuer la générosité de ce système, en particulier pour les employeurs, mais aussi pour les salariés sans doute. Hein, c'est le plus généreux d'Europe et probablement du monde aujourd'hui, parce que sinon, il va y avoir une incitation finalement à ne pas aller travailler, et c'est pas franchement la bonne incitation aujourd'hui.
Oui, c'est le grand risque, et puis il y a le risque aussi de la responsabilité pénale chez les entreprises. On en dira un mot dans un instant. À votre avis, vous qui êtes un grand expert de l'emploi, quelles sont les conditions de sortie de ce déconfinement pour inciter les gens à sortir, à revenir au travail? Qu'est-ce qui vous paraît raisonnable?
Je pense qu'il faut redonner confiance aux personnes. On ne redira jamais assez que la grande majorité des personnes au travail, en âge de travailler, pour peu qu'ils n'ont pas d'antécédents médicaux qui les rendent susceptibles d'avoir une forme sévère de la maladie, ont un risque très faible. Il n'est pas nul. Il va bien falloir s'habituer à vivre avec ce virus de toute façon. Donc le risque ne sera jamais nul. Mais pour sauver l'économie, pour éviter en fait la ruine du pays, il va bien falloir que la grande majorité de ces personnes, qui donc majoritairement tous ceux qui n'ont pas de pathologie antérieure, qui sont susceptibles de développer un cas grave, doivent absolument retourner à travailler, quel que soit d'ailleurs leur niveau hiérarchique, sans distinguer l'école bleue, l'école blanche, etc. Voilà, c'est un impératif absolu. Sinon, on va vers une récession probablement profonde, longue, avec une augmentation du chômage qui va emporter probablement nos systèmes sociaux et politiques. Donc c'est urgent de retravailler.
Urgent de retravailler. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? C'est un peu la grande expression à la tarte à la crème qu'on utilise aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qu'on reçoit qui nous disent bah, « Tiens, on s'est rendu compte que le télétravail, même pour eux, même au niveau du comité de direction, des comités exécutifs, c'est beaucoup plus simple de le faire en conférence, en visioconférence, que se déplacer, de perdre un temps garde-fous dans les transports. Et puis, en plus, le télétravail, ça peut ensuite être améliorer la productivité des entreprises.
Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que de manière générale, cette crise ne va pas changer le monde et ne va faire qu'accélérer des évolutions qui étaient déjà en cours, pour le meilleur et pour le pire. Alors, le télétravail, évidemment, je pense que les entreprises qui n'étaient pas du tout passées en télétravail souffrent énormément et vont bien être obligées de s'y mettre. Mais le télétravail, ce n'est pas qu'une question technologique, c'est une question de management, c'est une question de confiance vis-à-vis des salariés, c'est une question de nouvelle gestion du temps de travail, c'est une question d'autonomie plus grande du salarié. Donc, vous avez ce genre de sujet. Bon. Mais plus généralement, vous allez avoir la numérisation croissante de l'économie. C'est quand même pas un phénomène nouveau, mais il va s'accélérer. Et ce phénomène, certains parlent du capitalisme numérique, mais on y va évidemment. Il va y avoir des bouleversements pour le meilleur et pour le pire. Malheureusement, ça va faire de la casse sociale, c'est terrible à dire, mais ça va aussi ouvrir probablement de nouveaux champs d'action pour les entreprises. Donc à chaque fois, comme dans toute crise, il va y avoir des dégâts et des opportunités.
Bertrand Martineau, il y a un autre point aussi très important. Il y a cette peur de la responsabilité pénale qui est un vrai frein pour le chef d'entreprise qui, avant de faire reprendre le travail chez lui, il a très peur que sur la ligne de production, il y ait peut-être effectivement des contraintes sanitaires qui ne soient pas respectées à 100% ou à 150%. On voit bien que c'est une grande crainte. Comment est-ce qu'on peut faire que... Ce matin, Muriel Pénicaud disait c'est le dialogue social, mais on voit bien que pour un chef d'entreprise, ce n'est pas forcément suffisant.
Alors, on est dans un système français un peu particulier où on a certains syndicats qui mènent une politique, on va dire, contre le travail, contre la reprise du travail, pour une sécurité zéro. Alors, la sécurité zéro n'existera jamais dans le contexte actuel. Donc, les employeurs ont une obligation de moyens, évidemment, doivent fournir des masques. Et partout où c'est possible, je pense qu'il faut des protocoles qui soient discutés au niveau du dialogue social, même au niveau d'une entreprise. Vous pouvez vous mettre d'accord par un référendum, par exemple, dans une très petite entreprise, pour savoir voilà comment on va s'organiser pour le travail. Mais effectivement, vous avez certains juges ensuite qui vont intervenir et qui pourront toujours dire effectivement que tel employeur n'a pas fait tout ce qu'il fallait, etc. Alors même qu'on ne saura jamais si la personne a contracté le Covid sur le lieu de travail ou en allant boire un coup avec un copain le soir.
Absolument, c'est là toute la grande difficulté. Merci beaucoup Bertrand Martineau, vous reviendrez souvent nous voir ou du moins on pourra se parler par téléphone, vous êtes toujours des expertises très intéressantes. Je rappelle qu'aujourd'hui vous travaillez pour l'Institut Montaigne. Dans un instant, il sera en studio, c'est Frédéric Mazzella, président fondateur de BlaBlaCar et qui est co-président de la France Digitale. On verra comment se porte notre écosystème de start-up et puis surtout justement est-ce que ce télétravail à son avis ça va peut-être bousculer les règles du management en France. À tout de suite.
BFM Business midi, l'heure H, l'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il est en studio avec nous, Frédéric Mazzella. Merci d'être là. Voilà, c'est la reprise, hein, quelque part. C'est la reprise pour vous, la reprise pour nous. C'est important d'être au rendez-vous.
Oui, de toute manière, le digital est là et prêt à repartir. Oui.
Vous êtes président fondateur de BlaBlaCar. Vous avez lancé justement une nouvelle application d'entraide aux voisins. On va en dire un mot. Mais vous êtes aussi co-président de France Digitale. Comment se porte l'écosystème, la fierté française, la fierté des start-up tricolores? Est-ce que c'est un choc sans précédent?
C'est un choc pour tout le monde, c'est certain. En revanche, ce qu'on voit, c'est que le digital évolue pas mal et il y a une forme d'accélération des usages digitaux. C'est-à-dire que en quelques semaines, on a multiplié par 10 le nombre de télétravailleurs. On voit que au niveau des consommations, le fait d'acheter en ligne et notamment pour tous les biens, a été multiplié par 2 également en l'espace d'une semaine ou deux. Donc en fait, tout ce qui est, puis on voit même beaucoup d'institutions, que ce soit de l'éducation nationale au Quai d'Orsay, en passant par Rungis, qui passent à des méthodes beaucoup plus digitalisées qu'avant. Donc en fait, il y a une accélération. Alors évidemment, il y a certains secteurs qui récupèrent cette accélération sur certaines technologies de digital, et d'autres évidemment beaucoup moins.
Oui, mais en même temps, est-ce que c'est un choc, je dirais, sans précédent? Parce que jusqu'à présent, je veux dire, c'était une espèce, c'est un peu les années folles. Je veux dire, il y a l'argent qui coulait à flot. S'il ne coulait pas suffisamment à tel endroit, on ouvrait un nouveau robinet. Enfin, il y a eu quelques 5 milliards d'euros qui ont été lancés qui ont été investis dans les startups.
C'est de l'investissement.
Oui,
c'est de l'investissement.
On était dans un climat d'euphorie.
D'euphorie, là, c'est-à-dire que c'est le lancement d'une économie. Il faut voir qu'on avait quand même un certain retard. On a quand même pris à peu près 20 ans de retard sur d'autres régions du monde qu'on connaît par cœur. Donc, il y avait de toute manière une nécessité de rattraper un petit peu et donc d'investir. Investir quoi ? Sur les métiers de demain, dont une bonne partie est digitale. On le sait, on le voit bien aussi dans des économies, dans des régions qui fonctionnent différemment. Et donc, de toute manière, c'était une forme de rattrapage. Donc, après, cet argent-là a servi à aller créer de nouveaux services et former beaucoup de gens sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a ces services-là qui sont disponibles, et heureusement, parce que justement, ils peuvent nous aider dans des périodes comme celle-ci à pouvoir quand même continuer certaines activités, notamment à distance. Enfin voilà, tout ce qui est télétravail n'aurait pas forcément pu être possible si on n'avait pas digitalisé autant de choses ces dernières années.
Et est-ce que vous dites, un peu comme le disent certains, alors certains disent attention, comme l'économiste Daniel Cohen que je recevais lundi, qui nous dit c'est un monde justement un peu anti-humanisme, est-ce que c'est un monde numérique. Vous êtes un des créateurs de cet univers numérique, du moins en France, Frédéric Mazzella. Est-ce que vous dites c'est vrai que ça va accélérer cette transformation vers le numérique?
Alors ça, c'est sûr qu'on découvre, et heureusement qu'on a le numérique. J'ai envie de dire, on découvre
qu'on
a ces solutions numériques. Enfin, même vous ici, vous voyez, deviez, justement, pour aller interviewer des gens à distance, si vous n'aviez pas forcément les vidéos ou toutes les technologies que vous utilisez pour pouvoir le faire, ce serait plus compliqué. Et je voyais aussi, j'écoutais tout à l'heure à la radio, il parlait d'un service qui s'appelle Caféine, qui permet d'aller diffuser toute la presse de manière digitale, qui avant était peu utilisée et qui là, évidemment, est beaucoup beaucoup plus utilisée puisque la presse écrite a une diffusion beaucoup plus difficile aujourd'hui que la presse digitale. Donc on voit qu'il y a une forme d'accélération un peu sur différents secteurs. Donc en fait, c'est général, et heureusement qu'on a quand même investi sur le digital. Alors ensuite, on voit aussi que justement le secteur du digital, et on a fait avec France Digital un sondage là récemment, on a plus de 200 startups qui recrutent, y compris dans cette période-là. Donc évidemment, vous avez des services, que ce soit la télémédecine ou que ce soit les vidéoconférences, qui ont beaucoup besoin de déployer leurs services aujourd'hui et qui donc continuent à recruter. On a aussi des sociétés comme Backmarket qui font, enfin vous connaissez, c'est une place de marché justement de recyclage de produits électroniques, justement, enfin de refurbishing pour justement éviter qu'on surconsomme des produits neufs. Et donc cette société-là aussi recrute, et donc on voit que le digital a quand même, qui déjà créait beaucoup des emplois CDI nets juste avant la crise, va continuer à le faire juste à la sortie de crise.
Mais est-ce que vous direz quand même, c'est une chance pour cet écosystème-là ou pas ? Enfin, une chance entre guillemets, bien sûr. On est sur le plan économique.
J'ai envie de dire, il y a une chose qui ne change pas malheureusement. Enfin, il y a un focus supplémentaire sur le fait que le digital est important et que le digital fait partie de la reprise que l'on attend tous juste après. Il y a une chose qui ne change pas, c'est que on constate également qu'on a, le retard qu'on avait avant la crise en digital par rapport aux Américains et aux Chinois, on l'a toujours pendant la crise. Et il y a de fort à parier qu'on l'aura encore juste en sortie de crise, mais ça va être justement une bonne opportunité pour réaccélérer.
Il y a un plan de soutien qui a été fait spécifiquement pour les start-up, 5 milliards d'euros qui a été 4 milliards, je croyais que c'était. Est-ce que ça marche ? À quoi sert-il ? On a vu que Londres aussi a lancé un plan sur les start-up, mais lui, c'est en l'occurrence, c'est 1,5 milliard de livres. À quoi ça sert ?
Ça sert justement à poursuivre cet investissement parce que dans ces périodes-là, vous parliez tout à l'heure justement de toutes les start-up, c'est quand même très fragile une start-up. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très fragile. Pourquoi ? Parce que généralement, c'est pré-revenu. C'est-à-dire que ça n'a pas encore totalement prouvé sa stabilité financière sur le long terme. Et donc, une start-up investit énormément pour construire un nouveau produit et trouver son équilibre futur sur le fait qu'en vendant tant de services et en employant tant de personnes, on va réussir à faire en sorte que le service fonctionne, soit stable financièrement, ne perde plus d'argent. Pourquoi est-ce que les start-up élèvent de l'argent ? C'est justement pour l'investir et pour l'investir sur des nouveaux savoir-faire. Alors, en période de crise, quand on sait qu'en sortie de crise, on aura besoin plus que jamais d'avoir les métiers du digital qui sont présents dans notre écosystème, aller sous-investir aujourd'hui, ce ne serait pas la bonne solution, puisque les savoir-faire, on en a besoin aujourd'hui, mais on en aura encore plus besoin demain, donc il faut continuer à investir sur ce secteur-là.
Est-ce que du coup, parce qu'on voit, il y a un secteur, malgré tout ce qui est biotech, aujourd'hui, évidemment, c'est la poule aux œufs d'or, celui qui va trouver le vaccin, celui qui va aider à lutter contre ce fameux virus. Est-ce que les Français, on n'est pas un peu en retard là-dessus ?
Alors ça, sur le secteur de la biotech en particulier et de la médecine, je ne suis pas le meilleur spécialiste.
Oui, non, mais en termes d'investissement.
En termes d'investissement, il faut voir que les investissements dans la biotech sont généralement aussi également différents des investissements dans des start-up digitales pures, dans la mesure où généralement, c'est des cycles très très longs et c'est des investissements colossaux qui sont faits justement avec des horizons de temps très longs. Alors après, que la crise mettent en avant un virus plus qu'un autre, eh bien ça fait que certains laboratoires sont probablement mieux positionnés que d'autres pour trouver une solution. Mais ça, c'est indépendant.
On a l'impression que la France est un peu en retard, d'où ma question. Alors, vous, fondateur de Blablacar, Blablaline, est-ce que c'est complètement à l'arrêt? C'est-à-dire que vous n'avez plus de business là maintenant?
Ouais, on a vu effectivement une forte baisse. Enfin, à partir du moment où les gens ne se déplacent plus, quand vous avez un service de déplacement,
c'est clair que
forcément ça marche moins bien. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'en revanche, il y a des choses qui sont immuables et qui sont fortes, notamment dans la communauté qu'on a créée avec Blablacar. C'est une communauté de gens qui se font confiance soit pour se déplacer, soit pour faire autre chose. Raison pour laquelle, alors on a consulté notre communauté pour savoir ce qui était attendu de nous dans cette période de crise et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Qu'est-ce que la communauté justement pouvait apporter? Eh bien, il a paru de manière assez claire que l'entraide de voisinage était quelque chose qui était parfaitement pertinent pour une communauté comme Blablacar, qui est déjà une communauté d'entraide. Que ce soit une communauté d'entraide sur le déplacement avec le covoiturage, ou que ce soit une communauté d'entraide de voisinage pour aller faire les courses, soit de première nécessité, soit aller à la pharmacie, et qu'on puisse demander à un voisin de faire ses courses quand on se sent vulnérable ou qu'on n'a pas l'opportunité d'aller le faire soi-même, eh bien, c'est une forme de solidarité, une forme de fraternité qui est au cœur des valeurs de Blablacar depuis toujours, qui est une communauté avec des valeurs, enfin nous les valeurs qu'on a poussées, c'est tout le temps de la fraternité et de l'entraide et de la solidarité entre tout le monde.
Et combien là aujourd'hui vous en êtes à combien?
Alors sur les premières heures quand on a lancé, c'était plus de 5000 inscrits par heure, donc on a eu 15-20 000 inscrits sur dès le début. Là aujourd'hui c'est plusieurs dizaines de milliers d'inscrits, en plus on vient d'ouvrir sur d'autres pays, c'est-à-dire qu'on a ouvert dans 6 pays initialement, puis là on est en train d'élargir sur d'autres. En fait, on voit que ça fonctionne déjà très très bien. On voit le très bon côté de l'aide des gens.
Ça, c'est votre communauté,
Ouais. C'est fabuleux.
C'est une manière d'entretenir, parce que vous existez beaucoup par votre communauté. C'est la force de Blablacar.
Oui.
Donc, c'est une manière d'entretenir aussi.
C'est une forme de constance aussi dans le temps. On voit que la vraie valeur d'un Blablacar, au final, peut-être, c'est pas forcément uniquement le déplacement. La vraie valeur de Blablacar, c'est la communauté. Ouais. Justement des gens qui sont prêts à s'entraider. Aujourd'hui, c'est 18 millions de Français et 90 millions de personnes dans le monde. Là, on voit que cette communauté-là est prête à faire plein d'autres choses. Et donc, sur Blabla Help aujourd'hui, y compris dans plusieurs pays, on voit une formidable entraide se mettre en place grâce à ce réseau-là. On récupère les profils confiance. Vous savez, sur Blablacar, vous avez vous avez toutes les informations et les avis que les gens ont pu se laisser, qui contribuent énormément au fait que vous avez des profils justement, ce sont des profils de confiance et dans cette période-là, vous pouvez justement avoir des voisins qui vont vous aider.
Mais est-ce que c'est le help, il est uniquement au sein de la communauté? C'est-à-dire, est-ce que je suis, je suis une vieille dame, j'ai besoin qu'on m'apporte, qu'on me fasse mes courses, est-ce que je peux... comment faire
pour
être touchée par Blabla Help?
Très très bonne question, parce qu'en fait, ce qu'on a mis en place, c'est aussi une possibilité d'aller chercher un helper. Alors on appelle les helpers, c'est les gens qui donnent de l'aide dans le voisinage. Eh bien, vous pouvez aller chercher un helper soit près de chez vous, soit près de chez vos parents, près de chez vos grands-parents, près de chez des amis, justement pour pouvoir faire en sorte que les helpers aident des gens hors communauté directe de Blablacar, même si aujourd'hui on a communiqué principalement auprès de nos 18 millions, si on parle de la France, auprès de nos 18 millions d'inscrits en France. Eh bien, le produit est conçu pour pouvoir aller solliciter un helper près d'un parent proche, par exemple, qui aurait besoin de cette aide, qu'on lui fasse ses courses ou autre chose.
Frédéric, est-ce que ça peut devenir un vrai business?
Alors aujourd'hui, on se pose pas la question comme ça.
Parce que pour l'instant, vous posez pas la question, je sais bien. Pour ça que je dis, est-ce que ça peut devenir demain
Bah, écoutez, ça peut devenir de toute manière un service utile. C'est déjà un service utile. Oui. Donc, la vraie question, c'est est-ce que ce sera un service utile hors crise, post-crise ? Moi, ma conviction, c'est que oui. Forcément, mais puisque bien, oui. S'entraider entre voisins, c'est quelque chose de très fort, très puissant, et il n'y a pas forcément besoin d'une crise pour l'activer. En revanche, là, il y a une opportunité. Ensuite, si ça doit être quelque chose qui perdure, il va falloir qu'on trouve un modèle économique, parce que là, aujourd'hui, sans faire de dessin, oui. C'est quelque chose qui est totalement, évidemment... gratuit et qui est totalement pour le coup du coup à perte pour Blablacar, mais on pense que c'est la bonne chose à faire dans cette période-là.
Ouais. Vous avez mis combien de personnes au chômage partiel chez vous ?
Alors c'est 30% de notre effectif aujourd'hui qui est en chômage partiel. Ce qu'on a fait, c'est que sur des fonctions purement opérationnelles, évidemment les personnes ont pu aller en chômage partiel, mais sur des fonctions par exemple d'évolution produit, donc tout ce qui est technologie, tout ce qui est conception produit, eh bien on a gardé nos ressources qui est notre force aussi, c'est-à-dire que les grandes forces d'une société digitale comme Blablacar, c'est d'un côté l'équipe de développeurs, l'équipe, toute la technologie qu'on est capable de développer, et donc tous les collaborateurs de Blablacar, et de l'autre la communauté, comme on l'a vu. Et dans une période comme ça, eh bien on a l'opportunité de créer un service utile avec les compétences de notre formidable équipe, justement pour formidable communauté.
Est-ce que vous travaillez déjà au déconfinement et comment vous y préparez à cette sortie ? Parce qu'il faudrait bien qu'on en sorte. Allez, on va en sortir.
C'est un petit peu tôt, évidemment, encore pour savoir comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas encore tous les détails du déconfinement exactement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la manière avec laquelle on voit le covoiturage, c'est une manière de se déplacer dans laquelle vous n'allez pas être en contact avec 10, 20, 30, 50, 100 ou 500 personnes, mais que quelques personnes. Donc en fait, au niveau macro, c'est une solution possiblement de déconfinement douce pour les déplacements qui est extrêmement valable. Donc il faut la regarder de très très près, parce que justement ça évite de mettre une personne potentiellement contagieuse en contact avec des dizaines ou des centaines d'autres, comme dans d'autres moyens de transport. Donc le covoiturage est fort probablement une solution à privilégier en déconfinement pour aller vers des déplacements qui reprennent.
Ça va changer votre façon d'être un entrepreneur, en conclusion, Frédéric Menzelin ? Ce qui se passe ? Alors, le monde d'après, selon vous, vos logiciels ?
On ne connaît pas le monde d'après. Je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est de toute manière de se reconfigurer en permanence. Ouais. Ça a toujours été le cas. C'est ce qu'on a toujours fait chez Blablacar. C'est pour ça qu'on a toujours lancé aussi des nouveaux produits. Vous avez vu ces dernières années, on a lancé du covoiturage de courte distance, on a lancé des bus, on a même lancé de l'assurance. Donc on a lancé plein de choses. Là, on lance de l'entraide de voisinage. Ouais. C'est toujours un état d'esprit entrepreneurial qui nous anime depuis toujours. Et là, c'est dans des circonstances particulières. Ce qu'il faut, c'est regarder le contexte, regarder comment ça évolue et puis essayer d'être le plus pertinent pour le futur qu'on entrevoit.
Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Menzelin, pour ces paroles en tous les cas encourageantes. Donc, président fondateur de Blablacar et Blabla Help. Hein, c'est surtout ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Et donc, co-président de France Digital. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve demain matin. Mon invité, 8h15, c'est Augustin Dromanet, le patron des aéroports de Paris. On se retrouve dans l'heure H avec notamment Laurent Escure, le secrétaire général de la FESTA. Voilà, à demain. Bonne journée.